Bon, la vaccination est au ralenti. C'est vrai dans plusieurs pays, mais au Canada, ça semble être plus long qu'en France, par exemple.
Voilà, exactement.
Parce qu'en France, on parle d'un délai d'une semaine.
Ben c'est ça. C'est justement là que je m'en vais. Regarde, Paul, la semaine passée, là, Justin Trudeau a annoncé qu'il avait sécurisé 20 millions de doses supplémentaires de Pfizer, puis que ça nous permettrait, ces 20 millions de doses supplémentaires, de pouvoir vacciner tous les Canadiens qui veulent être vaccinés d'ici septembre. Avec ces 20 millions-là, là, vraiment, là, d'ici septembre, tous ceux qui veulent vacciner pouvaient l'être. Bon. Puis j'ajoutais qu'avec cette annonce-là, Justin Trudeau dépassait les attentes qui est en train de créer autour de l'opération vaccin un récit de compétences puis de capacité à livrer la marchandise. Et puis là, j'ai vu la nouvelle que Pfizer allait réduire de moitié sa livraison de doses pendant un mois, ici, chez nous. Là, je me suis dit, j'espère que Justin n'est pas en train de me faire mentir. Et j'espère qu'il ne va pas décevoir les belles attentes qu'il a créées avec son annonce la semaine passée. Évidemment, ce n'est pas de sa faute si Pfizer ont décidé de diminuer leur production de vaccins le temps de moderniser leur usine en Belgique. Par contre, je pense que Justin Trudeau va devoir nous expliquer comment il se fait que le Canada semble être le seul pays qui va subir une baisse de livraison des vaccins pendant plus d'une semaine. C'est factuel, ça. Pfizer a informé les autorités européennes que dans le cas de l'Europe, le retard dans la livraison des vaccins ne durera qu'une semaine et prendra fin lundi prochain. Mais dans le cas du Canada, les retards de livraison vont s'étirer sur 4 semaines jusqu'à la mi-février, ce qui va évidemment affecter le calendrier de vaccination. On va en savoir plus lors du point de presse de François Legault à 13h aujourd'hui. On va le diffuser en direct. Mais Paul, la question qui se pose... Pourquoi l'Europe s'en tire-t-elle avec une semaine de retard, alors que le Canada va devoir subir un délai de 4 semaines? Puis j'ai essayé d'avoir la réponse à cette question-là. J'ai eu des échanges avec Ottawa hier pendant une bonne partie de la soirée, puis honnêtement, la réponse n'est pas claire. Ce qu'on me dit, moi, on me dit, regarde Bernard, tout le monde est en compétition, tout bouge en temps réel, on va tout faire, nous, le gouvernement fédéral, pour minimiser les conséquences à court terme, et la ministre des Approvisionnements, Mme Anand, va faire un point de presse aujourd'hui pour faire le point sur les discussions.
J'ai une question à te poser.
Oui.
Le fait que Québec, par exemple, ait décidé d'étirer le délai pour la deuxième dose, ce qui n'est pas dans le protocole du fabricant, est-ce que c'est un irritant pour Pfizer ou pas? Je pose la question, là. Tu sais pas que c'est ça?
Ben, écoute, j'ai pas d'informations là-dessus. Je pense que le fédéral ne se serait pas privé de me le dire si ça avait été le cas. Peut-être que Mme Anand, aujourd'hui, dans son point de presse, va apporter des précisions là-dessus. Ça doit être tentant, du point de vue du fédéral, de pelleter ça dans la cour de Québec. Je ne sais pas.
Mais c'est parce que j'écoutais Dr Massé la semaine passée qui a dit, nous, là, on informe. Ouais. On ne demande pas permission à Pfizer, là. On les informe de la façon dont on va travailler.
Oui, puis ils disent qu'ils ont des bonnes relations avec Pfizer puis des bons contacts.
Alors, peut-être que ça n'a rien à voir, mais tu sais...
Mais pour le moment, Paul, ce qu'on sait, par contre, je suis pas capable de répondre à ta question.
OK.
Mais c'est vrai qu'on sait que Pfizer a été irrité.
Ça, oui.
On le sait, ça. Bon. Mais ce qu'on sait, par contre, puis ça a été confirmé, c'est que l'Europe était furieuse de la décision de Pfizer. Et lorsque les dirigeants européens l'ont appris, la présidente de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen, s'est mise sur le téléphone, puis elle a appelé directement le PDG de Pfizer. Ça, c'est à la fin de la semaine passée. Et bizarrement, dans les jours qui ont suivi, vendredi, Pfizer a informé l'Europe que le retard ne serait que d'une semaine. Il prendrait fin lundi prochain, alors que pour le Canada, ça va s'étirer jusqu'à la mi-février. La question que tu poses est légitime. La question que je vais poser l'est aussi. Est-ce que Justin Trudeau s'est fait doubler par l'Europe? Est-ce que l'Europe a été plus ferme? Est-ce que l'Europe a été meilleure négociatrice avec Pfizer que le Canada l'a été? La question se pose. Tu sais, d'entendre Justin Trudeau nous dire vendredi que la décision était hors de son contrôle... Et moi, je me fais la réflexion, ce qui n'était pas sous le contrôle du Canada était sous le contrôle du gouvernement européen, des gouvernements européens, en tout cas, semblait l'être davantage. Est-ce que c'est le prix à payer, cette décision-là? pour devoir s'approvisionner auprès d'une usine belge dans un pays qui appartient à l'Union européenne, Paul? C'est aussi la question qui se pose. Est-ce que c'est les Européens qui ont décidé, regarde, l'usine est chez nous, on va servir l'intérêt national ou l'intérêt européen avant...
Mais pendant qu'on dit ça, là, sais-tu combien de snowbirds québécois se font vacciner en Floride actuellement?
Non, je sais, il y en a qui prennent l'avion juste pour ça.
Non, mais j'ai plein de courriels de gens, j'ai des amis en Floride, ils se font vacciner demain. Il y a quelqu'un qui est un snowbird m'écrit, j'ai été vacciné moi-même demain en Floride, ça passe.
Paul, il y a du monde qui part du Québec, ils s'en vont en Floride, débarquent de l'avion, vont se faire vacciner, puis reviennent. Dans certains cas, c'est gratuit. Si tu as une résidence là-bas, là, ce que je comprends, là, c'est que dans certains cas, ils ne te demandent même pas de payer. Dans d'autres cas, tu es obligé de payer. Ça dépend. Là. J'ai eu des témoignages des deux versions. Bon, fait que l'autre affaire qui concerne Justin Trudeau, pas le temps qu'à faire, là. Le dossier là, du fédéral, là, tu parles des Snowbirds, là, le dossier là, du système de surveillance des voyageurs là, qui relève de Justin, là. Je veux dire, Paul, tous les témoignages qu'on a reçus jusqu'à maintenant, qui ont été publiés ces derniers jours, font état d'un système qui n'est pas à la hauteur, des appels automatisés qui sont faciles à déjouer, peu de contraventions données, seulement 3 contraventions données pour des voyageurs qui n'ont pas respecté leur quarantaine depuis les fêtes. 3 contraventions. Des forces policières qui ne se coordonnent pas. La GRC dit que ça dépend des forces policières provinciales. C'est à eux autres d'aller cogner aux portes, s'assurer que les voyageurs respectent. Puis les forces provinciales disent non, c'est la GRC qui doit s'en occuper. Puis là, Daniel Renault, un matin, nous apprend que le fédéral va engager le corps des commissionnaires puis des agences privées pour aller cogner aux portes, justement, pour faire le suivi. Écoute, Paul, moi, je pose la question, là. Est-ce qu'on ne devrait pas évaluer, la possibilité d'interdire les voyages à l'extérieur du pays pendant la semaine de relâche? On peut-tu commencer à l'évaluer, cette possibilité-là? Je sais que Justin Trudeau est très attaché aux droits individuels. Il a dit que la Charte des droits ne permettait pas d'empêcher les gens de sortir. Ou, tu sais, ça protégeait le droit de sortir et d'entrer au Canada. Mais il y a des moments... D'abord, les chartes, Paul...
Mais d'abord, la frontière terrestre est fermée, là, en passant.
D'une part, et d'autre part, Paul, lorsque les circonstances l'exigent, on peut imposer des limites à l'exercice des droits individuels. C'est pas vrai que les chartes des droits garantissent un droit absolu. Et dans ce cas-ci, dans le cas d'une pandémie, je pense que ce serait possible de justifier, si tant est qu'on devait le faire devant un tribunal, que c'est une limite raisonnable au droit de voyager que de se retrouver en pandémie, puis que de s'assurer que l'intérêt collectif a préséance sur l'intérêt individuel. On peut-tu au moins l'évaluer, Paul? La semaine de relâche, elle est dans quelques semaines, là. On va faire la même affaire qu'on a faite à Noël? On va les laisser sortir? On va les laisser revenir? Pas de contrôle? C'est n'importe quoi, ça. On peut-tu au moins se poser la question? Puis que Justin arrête de se draper dans sa défense des droits individuels. J'y crois, moi aussi, aux droits individuels, mais l'égoïsme individuel en temps de pandémie, ça n'a pas sa place.
Autre dossier, mais toujours au fédéral, c'est le chef, M. O'Toole, des conservateurs, qui expulse un de ses députés, qui était d'ailleurs un de ses adversaires à la course au leadership, parce que ce monsieur a reçu, M. Sloan, là, a reçu une contribution, disons, d'un suprémaciste blanc.
Oui, suprémaciste blanc aux sympathies néo-nazies. Alors, Sloan dit qu'il n'était pas au courant. Quoi qu'il en soit, hier soir, O'Toole a émis un communiqué pour dire l'acceptation par M. Sloan d'un don d'un suprémaciste blanc est pire qu'une grossière erreur de jugement ou qu'un manque de diligence raisonnable. Le racisme est une maladie de l'âme inconciliable avec nos valeurs profondes. Ça n'a pas sa place dans le pays, ça n'a pas sa place au Parti conservateur. Je ne le tolérerai pas. Out. Enfin, il entame les procédures. J'ai le goût de dire, Paul, enfin, que M. O'Toole commence à faire le ménage dans sa frange ultra-conservatrice, dans sa droite religieuse, parce que Sloan en fait partie. C'est un méchant moineau, là, ce M. Sloan-là, là, en tout respect pour la fonction, là. Tu sais, c'est celui qui a dit que Mme Tam était probablement complice avec les autorités chinoises, là, tu sais, là. Il a parrainé une pétition, là, contre le vaccin. Fait que... Que M. O'Toole projette une image de modération, qu'il choisisse le centre plutôt que les extrêmes, quitte à perdre des appuis dans les extrêmes. Mais s'il perd des appuis dans les extrêmes, je pense qu'il il crée les conditions pour aller en gagner au centre. En tout cas, moi, je honnêtement, là, que M. O'Toole cultive cette image d'homme modéré, je pense que ça peut l'aider, puis c'est une excellente nouvelle pour, je dirais, la politique canadienne. Qu'on soit conservateur ou pas, je m'en balance.
T'as-tu des nouvelles sur Keystone, là? Bon. Tout le monde se prononce sur une nouvelle qui n'est pas encore officielle, là. C'est-à-dire que Biden n'a pas annoncé.
Là. Non, il l'a pas annoncé, mais il y a tellement de rapports de presse, là, puis il y a tellement d'informations, notamment en provenance de l'ambassade canadienne à Washington. Moi, je pense que ce n'est qu'une formalité. Biden va retirer le permis fédéral au fameux pipeline qui doit donc transporter du pétrole albertain vers le sud des États. Sauf que, Paul, je veux juste dire à nos amis environnementalistes, là, faites attention de ne pas vous réjouir trop vite. Parce que si l'Alberta ne peut plus sortir son pétrole par le sud, ça pourrait donner des idées à certains de réactiver le projet d'un pipeline vers l'est. Tu comprends? Parce que c'est ça le problème avec l'Alberta, ils sont embouteillés. Là, en principe, il y a le fameux pipeline de Trans-Canada Mountain là, qui doit amener le pipeline, le pétrole vers l'ouest, vers la Colombie-Britannique, puis le sortir vers l'Asie. Mais ils comptaient beaucoup sur Keystone pour le sortir vers le sud. S'ils sont plus capables de le sortir vers le sud, ils vont peut-être dire, oh, ben garde, finalement, on va le sortir par le Québec, par l'Ontario, par le Québec, par le Nouveau-Brunswick. C'était ça, le projet Énergie Est. Alors, faisons attention. L'autre affaire aussi, c'est que s'ils sont pas capables de vendre le pétrole, ils vont être encore plus en maudit. Et puis, ça risque de relancer avec plus de virulence le débat sur la péréquation. Tu sais, Jason Kenney, il trouve qu'il envoie trop d'argent au Québec. Fait que... T'sais, ne nous réjouissons pas du malheur des Albertains, Paul. Restons calmes et faisons attention pour ne pas les provoquer.
Merci, monsieur. Bonne journée.
Bonne journée.
7h12, on va aller voir la situation sur l'autoroute des Laurentides.